السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شافعي الاسلام toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne l'opportunité de vivre ce mois béni de Ramadan. Soyons conscients, et certainement nous le sommes déjà, que nous vivons un mois exceptionnel. Nous sommes certainement en train de vivre les meilleurs jours de notre vie, à moins qu'une personne ait l'occasion d'aller au Hajj et de vivre des jours magnifiques, mais qui seront limités à quelques jours, les ayyam ul Hajj. Vivre 30 jours de Ramadan, c'est vraiment un cadeau minna wa ni'ma min Allah ta'ala. Qu'Allah nous accepte et nous donne le tawfiq de faire le maximum de bonnes actions et la fermeté dans la foi. Il y a un point qu'il faut retenir en introduction sur l'importance du Ramadan, c'est que nous devons être conscients que notre présence à la masjid durant ce mois de façon assidue, c'est une preuve de la guidée d'Allah Azza wa Jal et de sa rahma qui descend durant le mois béni. Qu'est-ce qui fait que durant le mois béni, nous sommes vraiment motivés pour venir à la masjid à l'heure et que il est impensable qu'un mu'min, qu'un musulman rate une salat, même un fajj du dimanche matin? Ce n'est pas que nous sommes motivés, ce n'est pas que on s'est fixé des choses ou que c'est le mois de Ramadan, donc ça se passe comme ça. Ça, c'est vraiment une rahma d'Allah, une clémence divine et une hidayah, une guidée qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, louange à Allah Azza wa Jal qui nous donne également la possibilité de nous retrouver ensemble dans une assemblée religieuse pour étudier ensemble un point de la religion et un point extrêmement important parce que cela fait partie des piliers de la foi, des branches, pardon, des six branches de la foi, parce que les signes de Qiyama sont en rapport direct avec Al-Iman bil-Yawmil Akhir, la foi en l'au-delà. Et justement, la foi en l'au-delà commence par la croyance en ces alamat, en ces signes qu'Allah Rabbul Izza envoie à cette Ummah, et bien sûr, c'est quelque chose qui est khas et spécifique à cette Ummah. Donc, comme Mouli Bagat a introduit, cette thématique, elle est très longue, On parle de développer quelque chose qui est basé sur des centaines de hadiths et des dizaines de versets du Coran. Donc, ça ne peut pas se faire en une séance, bien sûr. Donc, il a été décidé de faire un découpage en trois parties. Et puis, il y a la quatrième, c'est la cerise sur le gâteau qui nous a annoncé. La première partie, celle d'aujourd'hui, c'est l'introduction. Notre aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant la foi en l'au-delà, mais plus précisément la foi sur ces signes du Qiyama et plus précisément les petits signes du Qiyama. Parce qu'on verra le taqsim, on verra la façon que les savants ont classifié les signes du Qiyama. Il y a plusieurs classifications possibles en petits signes et grands signes. Ça, c'est une question de jitihan, c'est une approche personnelle, mais on va voir qu'on peut également les classifier en trois catégories. Et donc, la deuxième intervention, celle de la semaine prochaine, ce sera sur Imam Mahdi et Ad-Dajjal. Pour beaucoup, c'est le thème le plus croustillant. Et je voulais faire ce thème, Allah a décidé autrement. Mais on se rend compte que l'étude des petits signes de Qiyama nous donne une vision, subhanallah, tellement nette de la situation que nous vivons. Et que du coup, si on a cette conviction et on se raccroche au texte, on se rend compte qu'on arrive à comprendre beaucoup de choses qui se passent dans nos sociétés en prenant conscience de ces petits signes qui avaient été annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième thématique, ce sera sur Gog et Magog. Donc ça, c'est un grand sujet encore. Et notre imam de Fajr a lu ce matin des versets sur Ya'juj ou Ma'juj. Et thématique qui va aller jusqu'à la destruction de ce monde, c'est-à-dire le passage du monde du dunya vers le monde du akhira. Alors l'importance tout d'abord de la croyance en l'au-delà. Il est nécessaire de commencer par l'importance du iman bil-yawmil akhir, mais c'est un thème tellement long qui se décompose en 12 points. Et si on commence avec ces 12 points, on ne fera pas une intervention sur les petits signes de Qiyama, on va juste citer trois, et puis Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité un jour de développer cette thématique. Premièrement, il faut savoir que si on veut vraiment croire en Allah, on doit croire au jour du jugement dernier. Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal cite la foi en lui de le Coran, c'est toujours accompagné par la foi sur le jugement dernier. On prendra un verset, il est sal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi, et juste après wal yawmil akhir. Et dans la plupart des versets, on a le verbe amana ou iman billah, c'est suivi de bil yawmil akhir, parce qu'il faut savoir que croire en l'au-delà, c'est la suite, et j'aime pas utiliser le mot logique, mais on peut le faire, c'est la suite logique de la foi en Allah. C'est la concrétisation de Al-Iman Billah. Et le simple fait d'être capable de faire la relation entre Iman Billah et Iman Billyam Il-Akhir, ça montre l'intelligence du croyant, son implication dans la foi et son, on appelle ça le Basira, sa clairvoyance. Et c'est ce qui va différencier un croyant, on va dire, entre guillemets, traditionnel, qui pratique parce que tout le monde pratique sans vraiment comprendre à quoi ça rime cette salat de Tarawih, cette salat de Isha, ses actions, et le mu'min qui pratique avec yaqin, avec conviction et avec certitude de la relation entre ce que je suis en train d'accomplir maintenant et ce qu'Allah va m'accorder dans l'au-delà. Et le fait d'être capable de faire cette relation entre mes actions à l'instant T et ce qu'on appelle, c'est une action du cœur qui s'appelle ihtisabul ajr, l'espoir et l'attente de rétribution dans l'au-delà. Donc le fait de faire ce lien, ça va provoquer, ça va amener le ikhlas, la sincérité, et ça va amener également l'istiqama, la fermeté, la constance. Et c'est quelque chose qui nous manque énormément. Sans porter de jugement, bien sûr, on a parfois des tendances de pratique très périodiques. Une personne qui se fait la promesse de faire toutes ses salats à la masjid durant le mois béni, et intérieurement la personne a déjà l'intention, après le mois béni de Ramadan, de revenir vers un rythme un peu normal, on va dire, avec moins de présence à la masjid. Ça c'est aïb, ça c'est une preuve très claire d'un manquement même dans le iman, dans la foi, parce que ton iman billah est affaibli, parce que ton iman bil yawm il akhir est trop faible. Ça ne permet pas de relever le niveau de iman billah. Alors que le mu'min qui sait que quand je prie 5 fois par jour durant ce mois béni, mes salawat seront présentés à Allah, mais également le 3 shawwal, le 7 shawwal, dhil qa'da, dhil hijja, ses actions sont présentées à Allah, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre ce monde et l'au-delà, assurément il fera l'action avec présence de cœur, avec implication, avec sincérité et avec espoir de rétribution, parce qu'il sait que chaque bonne action soit présentée à Allah Azza wa Jal. Mais également, pareil, notre réaction face au péché. Imaginez que durant ce mois béni, j'ai un contrôle, on va dire, excellent et parfait sur mon regard, mashallah, sur quelque chose de souhaitable, de très difficile et de louable. Mais que après le mois béni, j'estime qu'il est normal de revenir vers mes mauvaises habitudes. Ça veut dire qu'il y a un manquement dans ma foi. Je n'ai pas réalisé que même après le mois béni, le regard inapproprié me sera présenté au tribunal d'Allah et j'aurai à répondre. Donc c'est parfois il suffit de recadrer certaines choses, mais vraiment basiques, très simples, sans aller vers de grands développements. Juste refixons nos bases de la foi, nos piliers de l'islam. Et je vous assure, c'est comme si qu'on dresse des rails et on arrive à trouver les qualités intérieures et on comprend mieux notre religion, parce qu'on est à une époque où on a grandement besoin de comprendre notre religion. Alors concernant cette première partie, la relation, l'importance de la foi en l'au-delà, on avait dit qu'il y avait 12 thématiques, 12 points. On devait en développer 3 ou 4. Je pense que cela est amplement suffisant, parce que si on fait bien les choses, il faut bien développer. Mais déjà, ça nous permet de prendre conscience que connaître les étapes de l'au-delà, c'est quelque chose qui me sera profitable directement dans ma vie de croyant de tous les jours. Maintenant, on en vient à notre thème du jour. Permettez-moi juste un deuxième point, parce que ça, c'est trop important. On voit parfois des personnes qui ont une pratique de la religion, mashallah, très assidue, avec la grande barbe de 15, 20, 25 cm, parfois plus, Mashallah, avec la tenue qui est normalement islamique, c'est-à-dire la panoplie du croyant Kamil. Et on leur donnerait le paradis si c'était de nos mains. Mais essayez juste de travailler avec cette personne. Essayez juste de vous associer à lui dans un projet financier. Et des fois, on est déçu. Si cette personne vous fait une promesse, ben vous vous rendez compte que la personne ne tient pas sa promesse. C'est-à-dire, en dehors du monde religieux, de la mosquée, du culte, de la prosternation, du ibadah, on se rend compte que parfois, la personne qui a des qualités spirituelles apparentes, extérieures, dans les transactions, dans le comportement, dans les relations familiales, ben, cette personne me déçoit énormément. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai un repli sur moi. Un, je n'ai plus confiance en lui. Deux, et c'est là où Shaytan, Iblis, va venir avec son waswasa, alladhi yuwaswisu fi suduril nas, il va finir par insérer ce venin dans ton cœur pour te faire penser que tu sais de toute façon, là, ces religieux, ces barbus, entre guillemets, hein, ben, ils sont tous pareils. Donc, ne fréquente plus la communauté et reste, prends des distances, essaie d'avoir de bonnes relations avec tout le monde, un bon comportement, et ces gens-là, ce sont des hypocrites. Et tout ça peut découler d'un mauvais comportement de quelqu'un qui doit normalement représenter le dîn. Ça peut être un savant, hein, ça peut être n'importe qui. Quand on représente la religion avec une pratique qui est apparente, ben, des fois, on représente réellement quelque chose et on doit faire très attention. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne, et c'est là où on arrive à une conclusion, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a une pratique assidue de la religion peut tromper des gens, mentir et être malhonnête? C'est que pareil, il y a un manquement terrible dans la foi en l'au-delà. Autrement, la personne aurait su que autant mes sujouds, mes prosternations seront présentées à Allah, mon engagement dans mon commerce, par exemple, avec cette personne, ou dans mes relations conjugales ou familiales, seront également présentées à Allah le jour de Qiyama, et j'en aurai à répondre. À partir du moment où j'ai une connaissance globale de la foi en l'au-delà, je vous assure, on recadre nos niyas, on recadre nos actions et on fait extrêmement attention à ne pas désobéir à Allah, mais également à ne pas froisser les gens, à ne pas causer du tort à notre prochain, qu'Allah nous permet de prendre cette bonne voie. Allez, on revient à notre sujet. Quelques règles concernant la fin du monde. Là, on a parlé de la foi en l'au-delà, maintenant on va directement vers la fin du monde. Et quand on dit la fin du monde, c'est la destruction de ce dunya. C'est une obligation d'y croire, et c'est une grande différence avec les Quraysh, par exemple, qui étaient mécréants, mushrikin, parce qu'ils croyaient en Allah, mais ils associaient d'autres divinités à Allah. Ça, on le savait. Mais les Quraysh ne croyaient pas également à la fin du monde et la résurrection. Et la vie après la mort. Ce qui fait d'eux des mouchriquines et des kuffars, des polythéistes parce qu'ils associaient autre divinité à Allah, et des kuffars parce qu'ils ne croyaient pas à quelque chose qui avait été révélé dans le Coran. Également, croire à la fin du monde, ben, ça découle des textes du Coran. On citera un seul verset, A'udhu minash shaitanir rajim, Idha zulzilatil ardu zilzala, surat qu'on mémorise, dans lequel Allah explique et relate la destruction de ce dunya. Autre point concernant la fin du monde est proche. Un verset qu'on retient, on essaie toujours de choisir des versets qu'on mémorise, les débuts de sourat en général on les connaît, on va vers la sourat al-qamar, iqtarabati sa'atu wanshaqqal qamar, l'heure approche et la lune s'est fendue. À travers ce verset, Allah Rabbul Izzah fait un lien direct entre la proximité du Qiyama, de la destruction de ce monde, et un des signes qui fait partie des petits signes de Qiyama qui est déjà apparu, qui a apparu donc lors de la révélation de ce verset, c'était lorsque le prophète avait fendu la lune en signant de son doigt pour montrer au Quraysh et à certaines personnes particulières la véracité de sa mission. Et après, si on voulait vraiment entrer dans les détails développés, on aurait essayé de mettre en avant l'appréciation du temps pour l'être humain et la notion du temps pour Allah Rabbul Izzah. Parce qu'une personne peut se dire, avec des pensées envahissantes qu'on entend à droite et à gauche, on peut se dire que oui, mais votre prophète a annoncé que le Qiyama est proche. Il l'a dit il y a 1500 années. Il est où ce Qiyama? Où est-ce qu'il est? Vous avez cette réflexion. Les Quraysh, ben, ils avaient eu la même. Et Allah avait révélé dans la sourate, subhanallah, le verset ne me revient pas, ils avaient posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Qiyama, ben, quand est-ce que ce Qiyama aura lieu? C'est-à-dire, d'une certaine façon, ils se moquaient du prophète alayhi salatu wa sallam de cette annonce. Donc à notre époque, il peut y avoir des personnes qui se disent, certes, cela a été annoncé dans les textes, mais depuis la révélation, ce Qiyama n'a pas eu lieu. Et là, ça nous ramène vers la notion de temps pour l'être humain. Il ne faut pas oublier que nous, quand on parle du temps, ce que nous appelons long et court, c'est en relation avec quoi? Avec notre vie, qui est limitée à 80, 85 ans en général. Mais ne pas oublier le verset dans lequel Allah Rabbul Izzah dit « Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun » qu'un jour auprès de ton Seigneur, c'est comme 1000 jours pour nous, c'est-à-dire 1000 jours de ce dunya. C'est un point à développer qui risque d'être long, mais déjà qu'on intègre qu'il y a, en arabe on appelle un tafa'out, un décalage entre les notions de l'au-delà et ce que nous comprenons dans ce dunya. Troisième point concernant la fin du monde, bien sûr personne ne sait quand elle aura lieu. Yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrik la'alla as-sa'ata takunu qariba. Les gens t'interrogent, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'heure. L'heure, c'est le qiyama. Dit, sa connaissance est exclusive à Allah. Quand sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Et hadith très connu où l'ange Jibril était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la masjid Nabawi en présence des sahaba, alors que la révélation, elle était permanente, c'est-à-dire pendant la prophétie. Et Jibril alayhi salam a fait un rappel au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les bases de la foi, concernant la foi, les 6 branches de la foi et concernant les 5 piliers de l'islam. Les savants disent que c'est une preuve qu'à toute époque, à tout moment, le mu'min a besoin de revoir ses bases. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam reçoit, je répète, dans la masjid Nabawi, à une époque où le Coran était toujours révélé, en présence d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira, les grands sahabas, l'ange Jibril vient, bien sûr, sous l'apparence d'un être humain, et personne, à part un Nabi, ne savait que c'était l'ange Jibril, pour faire un rappel sur les branches de la foi et les piliers de l'islam. C'est-à-dire que nous, en 2019, on a grandement besoin de revoir constamment et régulièrement les bases de notre religion, parce qu'il est dans la nature de l'être humain de sombrer dans la rafla. C'est quoi la rafla? L'insouciance et l'oubli. Et plus on va oublier les bases de la foi, cela va se ressentir sur la qualité de nos a'mal. Il se peut que nous accomplissions nos 5 prières au premier rang, mais il se peut également qu'aucune de ces 5 prières n'ait les qualités requises. Nas'alullah as-salamata wa al-'afiyah, qu'Allah nous protège. Et ça, c'est un des petits signes de Qiyama. Le prophète m'a dit, parmi les premières qualités qui seront reprises à cette Ummah, c'est la dévotion. Hatta takad, jusqu'à arriver à une situation où dans un lieu de prière, on aura des centaines de personnes qui prient et tu ne trouveras pas une personne qui prie avec dévotion et concentration, et qu'Allah nous protège. Alors que cette qualité, elle est à la base du iman, c'est-à-dire de la perfection du iman. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui ont la dévotion de la prière. Donc, on revient au texte de l'ange Jibril alayhi salam, qui a rappelé donc ses bases au prophète et aux sahaba. Et parmi ses questions, il a demandé au prophète d'Allah, mata as-sa'a, quand aura lieu le qiyama? Et le prophète a répondu, et ça c'était wahyun min Allah. Allah a mis la réponse de le cœur de Al-Karim, Al-Habib alayhi salatu wassalam, mal mas'oulu anha bi'a'lam min as-sa'il, celui à qui la question est posée ne connaît pas plus que celui qui pose la question. C'est-à-dire, dans un espace restreint, on a la meilleure des créatures, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes et la meilleure des créatures, et on a en face le meilleur des anges, l'ange Jibril, et ni Jibril, ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne connaissent quand aura lieu le qiyama. Mais le prophète a dit wa sa ukhbiruka an ashratiha, mais je vais t'informer de ces signes. Hadith rapporté par Bukhari. Voilà concernant une première approche de l'importance de la foi en l'au-delà et de la connaissance et de la prise de conscience de la fin du monde, et comment est-ce que cela peut influer directement dans la qualité de mes sujouds et dans mes relations avec les gens. Des fois, on se dit que connaître l'au-delà, ça c'est des sciences, des connaissances, na'oud billah, facultatives, hein. Ça c'est pour réfléchir et philosopher, aucunement. Ça, de ça dépend la concentration dans tes prières, comme on a dit, et ta dévotion et les qualités de ta relation avec ton prochain. Maintenant, point suivant, concernant la connaissance des ashrat us-sa'ah, des signes de la fin des temps. Avant de voir la classification, il y a deux niveaux de ilm. Comme dans tous les points de la religion, il y a toujours deux niveaux de ilm. Il y a la connaissance qui est wajib. Il y a la connaissance qui est mustahab. La connaissance qui est wajib, par exemple, si on parle de iman billah, la connaissance qui est wajib, c'est qu'Allah est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de parents, qu'il n'a pas ni ascendant ni descendant, créateur. C'est-à-dire le contenu de qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas. Maintenant, et ça c'est obligatoire. Maintenant, une connaissance qu'on appelle tafsili en détail, ce serait de connaître les noms, les attributs d'Allah, c'est-à-dire des choses qui sont beaucoup plus techniques, qui nécessitent un gros travail de recherche et d'apprentissage de la connaissance. Et ça, ce n'est pas obligatoire, sûr, ce n'est pas farz ayn, comprenons. Ce n'est pas obligatoire pour chaque croyant, mais plus on va connaître Allah, ses noms, ses qualités, ben plus notre iman billah va augmenter. Et plus notre iman billah augmente, Allahu Akbar. Avec un iman billah de 80%, la qualité de tes piliers de l'islam, elle atteint 80%. Avec un iman billah qui atteint 90%, ton tawaf autour de la Kaaba, elle devient exceptionnelle par rapport à celui qui connaît que très peu de choses concernant iman billah. Vous voyez comment est-ce que il y a une relation directe entre la foi et les piliers de l'islam, qu'Allah nous permette de nous remettre en cause tout simplement, et de ne pas nous suffire de nos pratiques, de notre semblant d'assiduité. Des fois, on se persuade qu'on est vraiment bon. Quand on voit le niveau de lecture de nos imams de Salat al-Tarawih, mashallah, c'est beau, c'est très beau. Hier, j'ai fait la salat ici, c'est impressionnant, et Allah récompense nos imams. Mais des fois, on se dit que tout compte fait, on est vraiment au top de la pratique de la religion. Sur certains points, oui, mais moi, qu'est-ce que je vaux moi personnellement? Mon iman billah vaut quoi? Et s'il y avait un appareil, un scanner ou un IRM ou une échographie pour avoir mon niveau d'iman billah, je crains qu'on serait vraiment déçu, très déçu. Et ce n'est pas pour rien, on ne va pas sauter les étapes ni les brûler, ce n'est pas pour rien, le prophète a mis en garde l'ensemble de la Ummah. Attention, et là j'emboîte une thématique qui n'est pas la mienne, le prophète a dit attention, lorsque vous entendrez parler de Dajjal, il y a une règle à respecter, c'est quoi? Ne pas y aller. Ne jamais tenter de rencontrer l'antéchrist pour voir qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il propose. Parce que on ne va pas voir Dajjal comme on va voir un débarquement de bœuf, tonton Massoum. Parce que quand on va là-bas pour voir un bœuf qui sort, on veut voir quelque chose d'impressionnant, on veut comprendre, c'est enrichissant. Mais Al-Masih Dajjal, ça me dit que des personnes seront persuadées d'avoir la foi et arrivées devant l'antéchrist, ils seront foudroyés, subjugués, impressionnés par le niveau des miracles. Et c'est ce que Cheikh Anas va développer la quatrième intervention, la différence entre les miracles de Dajjal et les miracles, les mu'ajizas, les karamas, les vrais miracles qui viennent d'Allah. Ça aussi, ça vient d'Allah. Que c'est Allah qui donne le pouvoir de le faire pour éprouver les gens. Je dis, on va faire un sujet, on va glisser vers Dajjal, ce serait une très mauvaise idée. Donc le prophète nous dit que des personnes vont penser
aller voir Dajjal pour voir, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ces personnes-là vont le suivre et devenir mushrik billah et kafir billah et le suivre. C'est-à-dire après des années d'assiduité dans la religion, qu'Allah nous protège. Ça nous permet de réaliser que plus donc on développe notre iman, plus on est protégé. Allez, on revient vers les deux catégories de ilm. Le ilm wajib, hein, on se raccroche au sujet, le ilm wajib concernant la fin du monde et les signes de Qiyama, c'est que ce dunya un jour sera détruit à la fin des temps, et avant la fin des temps, il y aura des signes. Les signes, il se serait bien de connaître au minimum les grands signes, mais il y a également des petits signes, énormément. Difficile de dire qu'il y en a 18, qu'il y en a 20, qu'il y en a 30. Certains savants vont jusqu'à une classification en 30, 40 signes. Mais à chaque fois qu'un signe arrive et que les savants, que le ijma', l'umma, l'ensemble de la umma définit ce qui se passe, sa situation comme un signe de qiyama, le mu'min doit avoir yakin et conviction que ça, ça a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la connaissance qui est mustahab, c'est la connaissance tafsili, on l'a compris, connaître chaque signe avec précision. Et quel est l'intérêt? On peut se demander quel est l'intérêt de connaître chaque signe avec précision. On va voir, il y a quatre grands fa'ida. On va le voir tout de suite. Il y a quatre grands fa'ida à connaître les signes du Qiyama avec précision. Premier avantage, premier fa'ida de la connaissance donc des signes avec précision, c'est que avant tout, alors je retrouve mes notes parce que là on va un peu dans tous les sens pour respecter le timing. Premier point, le fait de connaître que les signes, de connaître avec précision les signes, khair, on va faire de tête, le fait de connaître ces signes avec précision, ça nous permet, ça nous évite avant tout de sombrer dans ces fitna, parce que chaque petit signe de qiyama est un fitna. On a retrouvé, alhamdulillah, ça nous permet d'éviter les péchés qui accompagne les petits signes de Qiyama. Exemple, le prophète nous annonce qu'à la fin des temps, l'adultère va se propager. Et qu'un mari trompe sa femme ou qu'une femme trompe son mari, Wallah musta'an, ça deviendra, ça va se banaliser. Et ça finira même par être accepté. C'est-à-dire que le tahdhir, la mise en garde prophétique à mon niveau, c'est que, ô musulmans, sache que viendra une époque où les choses seront comme ça. Toi, bien sûr, ne suis pas le mouvement. Et deuxièmement, ne considère pas ça comme quelque chose de normal. Et troisièmement, si parmi tes proches, certains glissent vers ces péchés, tu dois les rattraper et les ramener vers le haqq. Pourquoi on a pris cet exemple précisément? Parce que des fois, on a des personnes qui, par confidence, nous disent que, vous savez, ma fille sort avec un garçon de tel âge depuis 6 mois. Et voilà, j'aimerais que tu parles à mon futur gendre du mariage, de l'importance du nikah ou de la conversion. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où on finit par banaliser le fait que ma fille sorte avec un garçon. Et on se dit que oui, mais de toute façon, ben jeune n'est comme ça de nos jours. Ou alors, maintenant la société a changé, les choses ont évolué. Il n'y a plus de système où on ne se fréquente pas et on se marie avec le respect et il n'y a pas eu de fréquentation, bien très clair avant. Mais la hawla wa la quwwata illa billah, voilà donc le piège de la méconnaissance de ces petits signes de Qiyama. On finit par tomber dans le préambule de ces petits signes qui est de les accepter et d'entrer dans ce jeu de fitna et de considérer que le faire, c'est quelque chose qui est tout à fait ordinaire. Deuxième avantage du fait de connaître précisément les petits signes de Qiyama, ça nous permet d'éviter les erreurs de jugement et les interprétations trop rapides. Depuis que j'étais petit, depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, on écoutait les premiers bayans, on entendait souvent des gens dire « tel endroit, tel grand bouzrouk l'a fait salam imam Mehdi, il est déjà sorti. » Alors, on était très content, peut-être qu'il va venir à la réunion, peut-être que... Mais ça fait 30 ans qu'on entend que tel bouzrouk, en fait, chacun son bouzrouk aussi, donc ça c'est un autre problème. Et mon bouzrouk à moi, mine bouzrouk, a fait moulakat avec... ne manquait plus que ça, avec imam Mehdi. Donc le problème c'est qu'on va aller vers des jugements disparates et on va aller vers des interprétations. Mehdi, imam Mehdi fait une sortie. Et combien de fois on a entendu de le hajj? C'est souvent, je ne sais pas pourquoi, le 8e de l'hijja, les gens délirent. Je ne sais pas, il y a des trucs comme ça qui se passent. Vous êtes tranquille, yom tarawih dans votre tente, et on entend les gens dire takbir très fort. Dit, qu'est-ce qui se passe? Dit, oui, telle personne a annoncé une bonne nouvelle, qu'imam Mehdi est sorti. Bref, il faut arrêter avec ces délires-là, tranquille. Ce que le prophète a annoncé, c'est du lourd. La venue d'un homme qui va rétablir la justice de l'humanité. Et ces signes-là, ils sont visibles et clairs. Il est impossible. On est en train de sortir un peu du sujet, on revient vers des bases, mais on a dit, on ne peut pas tout dire en 40 minutes. On revient vers des bases. Les savants disent qu'un signe de Qiyama, c'est un changement dans la sunnat d'Allah. Et on entend souvent dans le talawin, sunnatullah. La sunnat d'Allah, c'est l'organisation de ce dunya voulu par Allah. Comment Allah a décidé que le monde fonctionne du premier jour jusqu'au dernier jour avec des règles. Et chaque petit signe, c'est une perturbation, c'est un changement dans le fonctionnement du dunya jusqu'à ce que ce monde sombre vers le chaos total. Et c'est là que ce monde est détruit. Ainsi donc, il ne m'est pas permis d'aller vers des conclusions hâtives et de dire que Dajjal est déjà sorti, il est déjà là, il a commencé son travail, ou Dajjal c'était telle personne, ou parce que telle personne a un œil qui ouvre pas bien, ou qui a une grosse tache sur le front, c'est lui, ou des fois on avait entendu des interprétations très farfelues que Dajjal en fait c'est la télé. On a toujours entendu ça quand on était petit. Et pour nous persuader qu'il faut arrêter de regarder la télé, dit la télé c'est Dajjal. What the hell? Et si la télé c'est Dajjal, mais que dire des écrans plats? Qu'est-ce qui est arrivé à Dajjal? Il est devenu LCD. Tous ces délires-là, en fait, ça montre qu'on a une très mauvaise approche et un manque de connaissance totale sur ces petits signes. Il ne faut pas utiliser ça comme des contes ou de fées pour faire dormir les enfants, pour les faire peur, aucunement. On parle de aqidah. On parle de croyances. Et les faux Mehdi, on a eu aussi. On connaît l'histoire en 1978, il me semble, qu'à Makkatul Mukarrama, une personne qui, voilà, il s'est décidé d'être Mehdi, mais sauf que ce n'était pas lui. Et il a fait un fitna exceptionnel dans Haram Sharif à Makkah, demandé à ceux qui n'ont pas connu cette époque, nos parents certainement, en ont entendu parler. Donc le fait de connaître avec précision quelle est la lignée de Mehdi et quelles sont les caractéristiques de l'antéchrist, ça nous permet d'éviter des erreurs de jugement. Également, quatrième, et on va s'arrêter à quatre points sur cette thématique, il y en a d'autres, mais il faut qu'on se limite, ça nous évite, et ça c'est un point essentiel, ça nous évite de sombrer dans le fatalisme. Il y a des fois où on est désespéré. On voit la dépravation des mœurs, on voit comment est-ce que les choses vont dans tous les sens. On se dit, bah, il n'y a plus besoin, fais l'effort, arrête de toute façon. Et quand on voit la situation du monde musulman, on voit la Syrie, on voit la Palestine, on voit la Chine. Et d'année en année, wallah, on doit rajouter le nom d'un nouveau pays. On se dit que ben, il n'y a rien à faire de toute façon, il n'y a que Imam Mehdi qui pourra changer tout ça. Ça, c'est une réaction fataliste. C'est-à-dire que on se dit que moi, en tant que mu'min, je ne vais plus ni faire un doua, ni aider financièrement, ni essayer de réfléchir à comment apporter un peu de justice à mon niveau par, je sais pas, par des lois, par des notions, par des, et ainsi de suite. Non, je finis par dire que de toute façon, il n'y a que Imam Mehdi qui va régler ça. Et ça, c'est une réaction qui n'appartient pas aux croyants. Le mu'min se doit d'agir et de faire tout ce qu'il peut pour rétablir la justice quand cela est possible. Et on va dire un dernier point, mais espérons qu'on n'ait jamais à le vivre, c'est être conscient de la façon d'aborder les signes. En fait, les signes de Qiyama, il faut surtout souhaiter, surtout les grands signes, ne jamais les vivre. Parce qu'Allah seul sait, comme on a dit tout à l'heure pour Dajjal, quel est le niveau de iman et est-ce que ma foi sera suffisante pour supporter de telles choses. Ainsi, quand le prophète avait annoncé qu'à la fin des temps, une montagne d'or va émerger de l'Euphrate, ben le prophète a interdit aux croyants d'y aller, de prendre de cet or. Donc, être conscient de la façon d'agir et de ce qu'il ne faut pas faire. Pareil pour l'antéchrist qu'on a dit tout à l'heure. Mais également, quand le prophète avait dit que le règne de Dajjal sur terre, c'est 40 jours et le premier jour sera l'équivalent d'une année. Yomun Kasana. Un jour comme un an, les sahaba ont immédiatement posé la question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, cette journée qui sera comme un an. Ben, comment on va organiser nos cinq prières? Sachant que quand on dit une journée comme un an, ce n'est pas une métaphore, hein. Ce n'est pas qu'elle paraîtra très longue, non. Les notions de temps qui paraissent longues ou doucement ou courtes, ça a déjà été annoncé dans les petits signes. C'est-à-dire que ce sera une journée, un an, sans lever ni coucher du soleil. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné la réponse aux Sahaba, comment calculer les heures de Salah. Donc voilà quelques enseignements précis concernant l'importance de connaître avec précision le ilm mustahab concernant les signes de Qiyam. Ainsi, on reprend le fil de l'intervention. Comme Allah a décrété que rien n'est éternel, aucun être humain, ni population, ni culture, ni civilisation, on a kullu nafsin dha'iqatul maut, on a kullu man 'alayha fan, dans sourate Ar-Rahman, des versets qu'on connaît. Allah également a décrété que wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, que les civilisations vont s'enchaîner et personne ne gardera le leadership jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il y a un roulement, un cycle permanent. Ainsi donc, de la même façon, là on est en train de parler des sunnats d'Allah, comme Allah a créé, a débuté la création dans un tartib, dans un ordre précis, Allah a créé al-qalam, la plume, ensuite le arsh, et dans les créatures, Allah a créé d'abord les anges, ensuite les djinns, ensuite les êtres humains. De la même façon, la destruction de ce monde, c'est-à-dire la déconstruction de la sunnat d'Allah, elle va se faire dans un tartib précis, particulier, qui commence par ces petits signes, jusqu'à arriver vers les gros clashs. Et les gros clashs, ça va être quelque chose de très lourd, parce que ce sera la première fois que le monde de l'invisible va entrer en collision directe avec le monde du visible. C'est-à-dire que quand Imam Mehdi arrive, et il y a divergence sur Imam Mehdi, certains disent que c'est petit signe, d'autres grands signes de Qiyama, mais plutôt quand Al-Masih al-Dajjal, ça il y a une unanimité que c'est un des grands signes, quand l'antéchrist vient sur terre et il va accomplir des miracles, mais des choses exceptionnelles, sans rentrer dans le sujet, il ira voir une personne pour le persuader que c'est lui, Allah, na'oudhou billah, et cette personne aura perdu déjà ses parents qui sont enterrés, il va les faire ressortir de terre. Hadith, ça, ce ne sont pas des fables. Hadith nabawi, il va les faire ressortir de terre, le papa et la maman qui sont morts, ils reprennent une apparence humaine normale, il les fait parler, et le papa et la maman disent à leurs enfants, « Oh mon fils, témoigne que c'est lui ton Seigneur. » C'est-à-dire un niveau de miracle et un pouvoir qu'Allah lui a donné, un niveau de fitna tellement fort et qui sera visible aux yeux de l'humanité, aux yeux de tous. Il y en a qui avaient parlé du clash des cultures, des civilisations. Ça n'aura jamais lieu, parce que celui qui pratique son dîn correctement, il peut le pratiquer partout. Mais par contre, le clash entre le monde du raïb et le monde du dunya aura lieu à la fin des temps, lorsque les grands signes vont commencer, et là l'humanité ne comprendra plus rien, parce que toutes les valeurs qu'on aura acquis, notre esprit cartésien, notre esprit rationnel, notre rationalisme sera immédiatement ébranlé par ces signes du Qiyama qui vont remettre en cause toutes les lois physiques et tout ce que nous avons comme acquis. L'ensemble des Anbiya, alayhimu salatu wassalam, avaient eu un quota de ilm concernant les signes de Qiyama. Et les deux prophètes qui avaient le plus de connaissances sur les signes de Qiyama, c'était bien sûr notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais également Isa alayhi salam. Et lors du voyage nocturne, on va vite, le prophète avait rencontré les Anbiya, ils avaient discuté entre autres du Qiyama, et Isa alayhi salam s'était distingué par une connaissance très approfondie des signes de Qiyama. Et pourquoi? Les savants disent parce que Isa sera présent. Il aura un rôle fondamental dans les grands signes de Qiyama. Enfin, la venue de Isa alayhi salam fait partie des grands signes de la fin des temps. Et Isa, c'est Jésus, c'est celui qui va prendre le relais de Al-Mahdi. À un moment donné, Al-Mahdi va rencontrer Isa et Isa alayhi salam va rencontrer les mu'mines qui auront prié la salade de Fajr, Allahu Akbar, de le Baytul Maqdis. Et Isa alayhi salam va les rencontrer et il va essuyer les larmes de leurs joues et il va leur annoncer là, c'est une scène qui est magnifique qu'on ne souhaite pas voir parce que ce sera des situations terribles. Isa alayhi salam, un relais essentiel, il prend le relais d'Imam Mehdi pour la guider de cette Ummah. Et c'est lui qui affronte l'antéchrist et qui va l'exécuter avec sa lance à un endroit en Palestine qui s'appelle Bab Loud. Et c'est lui qui va prendre, qui va avoir l'information de la venue de Gog et Magog. Et c'est donc lui qui va demander à Allah son aide afin qu'Allah envoie ses créatures pour détruire Gog et Magog. Et c'est toujours lui qui va constater que maintenant le cadavre de Ya'juj et Ma'juj pullule sur ce monde. Et il va demander doua et Allah va nettoyer cette terre par une pluie bénéfique qui va apporter une bénédiction, une ère nouvelle de baraka à l'humanité. Et ensuite, il quitte ce monde. Et quand il quitte ce monde, c'est là que ça va aller. Tout va être détruit, c'est-à-dire d'année en année, le monde va connaître un déclin extraordinaire et ça va sombrer jusqu'à la destruction de ce monde. Donc, Isa alayhi salam, c'est celui qui connaissait beaucoup plus que les autres prophètes, mais An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, avait eu de la part d'Allah une connaissance parfaite et complète, même si lui ne va pas vivre ces signes de Qiyamah, mais c'est le Nabi Yur-Rahma, le Nabi de cette Umma, c'est dans sa communauté que le Qiyamah aura lieu. Donc, il nous a tout transmis, il nous a enseigné tout ce qu'Allah lui avait révélé. Et notre prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a annoncé, si on veut faire par cycle, une approche par cycle, que cette religion va connaître une situation extrêmement complexe, énormément de fitna et énormément de difficultés dans la pratique de la religion. Et depuis quelques années, on parle énormément d'islamophobie. Hein. C'est quelque chose qui, au niveau où nous le vivons à cet instant, c'est encore très léger. Mais à la fin des temps, ce niveau, il va devenir tellement difficile que affirmer sa foi deviendra quelque chose de complexe partout dans le monde. Et donc, le déclin, on ne parle pas de déclin, mais de situation difficile de la Ummah. Ensuite, le Prophète annonce que le Izzah revient pour cette Ummah. Le niveau de din et d'honneur remonte avec la venue de l'imam Mehdi. Ensuite, la Ummah reconnaît une période difficile avec la sortie de l'antéchrist de Ad-Dajjal, qui sera accompagné de certaines personnes qui vont l'aider dans sa lutte. Et il y aura ensuite l'aide d'Allah, le niveau de la Ummah remonte justement avec la venue de Isa alayhi salam. Ensuite, il y aura une nouvelle période d'épreuve avec la venue de Ya'juj et Ma'juj. Et ensuite, cette Ummah va connaître le summum le plus haut niveau de bénédiction et de baraka avec, on va dire, les années où Isa alayhi salam sera amir, et pas prophète bien sûr, hein, où il sera amir sur cette Ummah, où Allah va accorder beaucoup de baraka jusqu'à la destruction de ce monde et des événements terribles. Et après là, les événements terribles, c'est la destruction de la Kaaba, le raf'u al-Qur'an, Allah reprend le Qur'an de la terre, de cette Ummah, et vient ensuite la destruction de ce dunya. Donc ça, c'est l'annonce par cycle concernant cette Ummah, cette communauté. Maintenant, il faut être conscient qu'à notre époque, il est essentiel d'aller vers cette connaissance précise des petits signes de Qiyamah, parce que la plupart de ces petits signes de Qiyamah se sont déjà produits. Et ce qui est intéressant, c'est quand on lit un livre concernant les signes de Qiyamah écrit par un ancien, par Ibn Kathir, rahimahullah, par exemple, et qu'on lit un livre des signes de Qiyamah écrit par un contemporain, et j'aime bien montrer les références, ce livre qui a été écrit par un docteur en sciences islamiques, docteur Mohamed Al-Arifi, La fin du monde, très 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 bon ouvrage qu'on utilise dans l'enseignement des signes de Qiyamah à la madrasa. On se rend compte que quand Ibn Kathir dit que voilà, ces petits signes-là n'ont pas encore eu lieu, et quand on lit un livre écrit au XXe siècle, on se rend compte que la plupart des petits signes qu'Ibn Kathir avait mentionnés comme étant des signes qui n'ont pas eu lieu, ben, ils se sont déjà produits et nous sommes en train de les vivre de plein fouet. Donc ça veut dire plus on avance dans le temps, plus il devient urgent de connaître les petits signes de Qiyamah pour en être protégé et pour la survie de notre foi. Et ça, ce sont les petits signes. Et ces petits signes, alors comment on va présenter ça? Ils peuvent parfois être perçus comme une évolution normale des sociétés. Et ce serait là le piège. Illustration, ce qu'on a dit tout à l'heure pour le zina, par analogie, on le comprend pour tous les petits signes de Qiyamah. Quand le prophète parle de l'intérêt, ça c'est les mots qui font très mal ça, que prendre de l'argent en emprunt avec la banque, c'est haram et ainsi de suite. Enfin, le prophète n'avait pas parlé de banque, mais l'usure et l'intérêt, ce sera généralisé à la fin des temps. Ben, l'approche, on va dire, de notre société, c'est de dire que de toute façon, on ne peut pas, faire de commerce autrement. Et on finit par intégrer le principe de riba, et on, parfois on se donne bonne conscience, bon, ben, m'y prend l'argent pour mon entreprise, mais en même temps, m'y donne masjid, donc on prend du haram et on donne du halal, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Et si tu réagis de cette façon, si c'est là ton mode de fonctionnement, ça veut dire que tu es tombé dans les pièges des petits signes de Qiyama et que tu n'avais pas suffisamment de connaissances pour intégrer que ces petits signes de Qiyama, c'est comme du feu. Des fois, on se dit que c'est Dajjal le grand danger. Oui, Dajjal, c'est le grand danger. Que c'est Gog et Magog qui vont causer beaucoup de dégâts. Oui, bien sûr. Mais chaque petit signe de Qiyama, en tout cas tout ce qui concerne les fitnas, parce que là aussi, il y a une classification entre événements naturels, tremblement de terre, séisme, glissement de terrain, pluie abondante, sécheresse, ainsi de suite. Ben, ça ne cause pas de péché, bien sûr. Et les signes en rapport avec des péchés qui vont se généraliser. Si j'ai une approche, on va dire, terre à terre, je me trompe. On a besoin de cette approche islamique et religieuse, réaliser que ça, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam m'en a informé et je ne dois pas tomber dans ce piège, je dois m'en éloigner, quitte à paraître aux yeux de la société comme une personne un peu particulière, un peu étrange. Le Prophète n'avait-il pas dit que ce dîn a commencé gharib, et gharib c'est étrange, quand le Prophète était avec une poignée de sahaba et que tout le monde les pointait du doigt, et cette religion redeviendra étrange. Fatouba lil ghuraba, la bonne nouvelle à ces personnes qui resteront accrochées à leur religion. Et qu'est-ce qui fait, les ulama disent qu'ils restent accrochés à leur religion, c'est qu'ils ont suffisamment de connaissances et de basira. C'est un terme très important. Le basira, c'est la clairvoyance. Et la basira, on ne veut pas développer ça, mais dans un verset qui commence par « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah », Allah Rabbul Izzah parle de cette clairvoyance, que quand la personne a la crainte d'Allah, à un moment donné, al-furqan, il me semble, Allah te donne le furqan, le discernement, la possibilité vraiment d'avoir une vision qui est différente de 80 personnes qui sont à côté de toi. Tu vois le haram quand eux, ils ne le voient pas. Tu sens le danger quand eux, ils ne le sentent pas. Tu sens le deuil du fitna et tu t'en préserves. Tu fermes tes fenêtres. Tu prends ta famille avec toi quand eux disent que non, ça c'est l'ambiance, ça c'est normal, on est en 2019 et ça c'est, ce sont les nouvelles générations. Et cette réaction de foi-là, subhanallah, c'est quelque chose d'essentiel pour notre survie. Et c'est cette approche-là que nous voulons et qui est basée sur une connaissance précise sur ces petits signes de Qiyama. Parce que maintenant, il y a les grands signes. Alors, très souvent, faire le lien entre ces thématiques, c'est compliqué parce que chaque thématique nécessite au minimum une heure ou deux de développement. Nous, on essaie de faire l'impasse en 5 minutes et ce n'est pas un exercice facile. Il y a des fois où on se dit qu'il n'est pas possible de résister à cette vague de ce que vous appelez petits signes de Qiyama. Parce qu'il faut être réaliste, il faut avoir les pieds sur terre. Nous vivons dans une société qui est comme ça. Si mon collègue de bureau, ma collègue, elle vient, elle me fait la bise, c'est comme ça, il ne faut pas dire que je suis pervers. Non, on n'a pas dit que tu es pervers. Mais sache que c'est une pratique qui va à l'encontre de l'enseignement prophétique. N'entre pas dans ce jeu de généraliser les péchés. Des fois, on a du mal. Et on comprend que les gens ont du mal. Et on ne pointe personne du doigt. Et on ne regarde personne de haut, même si je suis sur un mimbar, on ne regarde personne de haut. Chacun connaît son ahwal. Mais je veux dire que des fois, on se rend compte que pour digérer les petits signes de Qiyama, essayer d'en tirer une pratique réelle et concrète sur le terrain, on se dit que oui, mais c'est complexe quand même, c'est difficile. Voilà. Mais que dire de la compréhension et de la bonne réaction face aux grands signes de Qiyama, ça nécessite un exercice spirituel qui, je pense, est tellement difficile et qu'Allah nous protège qu'on n'ait pas besoin de le faire. On parlera juste de, par exemple, quand Dajjal arrive avec ses miracles, d'accord? Ou qu'on parle de Jésus, de Isa qui redescend du minaret blanc de la mosquée de Damas. Si on a le cœur qui baigne dans l'esprit de le raisonnement logique, l'esprit cartésien qui est caractéristique de notre société, et qu'on arrive un peu à cette réflexion comme certains islamologues, d'accord, je mets plein de petits points jusqu'à là-bas, certains islamologues qui, avec cette pensée mu'tazilite, j'ai dit, cette pensée mu'tazilite, ils arrivent parfois à effacer, à faire l'impasse sur tout ce qui est en rapport avec l'invisible, pour vous dire par exemple, oui, le châtiment de la tombe, ce sont des films d'horreur, des contes de fées, nous avons une autre compréhension, ce sont des métaphores, des paraboles, la hawla wa la quwwata illa billah, tu es en train de remettre en cause ton iman. Donc si nous avons cette approche qui veut que toute chose soit palpable par mes cinq sens et compréhensible totalement avec mon esprit cartésien, ben, face à Dajjal, on perd la foi immédiatement et qu'Allah nous protège. Et face à, par exemple, là on a cité le dernier exemple, quand on dit que Isa al-Islam descend du ciel, venez pas se dire comment est-ce qu'un être humain peut descendre du ciel à une certaine altitude, il n'y a plus d'oxygène et ainsi de suite. On va aller vers des raisonnements totalement incohérents. C'est pour ça qu'on dit que croire avec tafsil, présence de ces grands signes de Qiyama, cela nécessite un socle spirituel extrêmement important. Et c'est pour ça que ce Qiyama certainement aura lieu sur des personnes qui auront un niveau de foi tellement fort. Ce n'est pas pour rien si ce sont ces personnes qui seront élues par Allah pour être auprès de Isa, auprès d'Imam Mehdi avant tout, et auprès de Isa alayhi salam dans les endroits les plus stratégiques. Le Sham, hein, ils sont les endroits les plus stratégiques à la fin des temps. Donc ce qu'on doit comprendre donc en conclusion de cette première partie, c'est que croire au signe de Qiyama, c'est une nécessité, mais c'est une nécessité et c'est devenu quelque chose d'urgent, et cela nécessite un iman billah solide, pour avoir un yakin solide, pour pouvoir intégrer. Et quand on nous a expliqué que l'adultère et l'intérêt, et ainsi de suite, tous ces petits signes qu'on va énumérer, ben ça fait partie des signes de Qiyama, on doit avoir cette foi suffisamment solide pour dire que donc ce sont des choses mauvaises, je dois m'en éloigner, et non pas aller vers un raisonnement, dire que non, ben la société, elle évolue comme ça, quand Dajjal va venir, là je vais faire attention, aucunement, si tu as chuté dans les petits signes de Qiyama, tu vas te ramasser grave dans les grands signes de Qiyama pour dire des choses simplement et qu'Allah nous protège. On va aller un peu plus vite, un peu plus loin, maintenant dans, je sais pas, combien de temps on a fini là? 45 minutes. On finira avant la venue d'Imam Mehdi, Inch'Allah, c'est le plus important. La classification des signes, on parle des petits signes de Qiyama, et là aussi il y a petit A et petit B. Ça donne une approche de Cheikh Anasala, petit A et petit B, on s'y perd très souvent. Il y a deux catégories de petits signes de Qiyama, allati waqa'at ou allati, il y a trois même, allati waqa'at ou antahat, les petits signes qui ont eu lieu une seule fois, et c'est fini. Deux exemples, on va donner des exemples directement, ben, ça va vous étonner, mais la venue du prophète sallam de ce dunya, c'est le premier petit signe de Qiyama, al-bi'tha, parce que c'est le dernier des prophètes. Le simple fait qu'il vienne sur terre, c'est le premier, c'est-à-dire qu'on a démarré les petits signes de Qiyama. Parmi les petits signes de Qiyama, mautuhu, sallallahu alayhi wa sallam, son décès. Et parmi les petits signes de Qiyama, lorsque le prophète a fendu la lune. C'est-à-dire que ce sont des petits signes qu'Allah a décidé qu'ils se produisent une seule fois. Et ils ne se répètent pas. Première catégorie. Deuxième catégorie de petits signes de Qiyama qui se sont produits déjà et qui vont rester, se perpétuer jusqu'à l'arrivée des... Pas jusqu'à l'arrivée du Qiyama, jusqu'à l'arrivée des grands signes. Quand les grands signes arrivent, on passe à another level, à un autre niveau complètement. À un autre niveau de fitna, et c'est mille fois plus intense. Donc, des petits signes qui se sont déjà produits et qui continuent à se produire. Exemple, la venue de 30 grands menteurs. Dajjaluna kazzabun thalathun. 30 personnes qui soit prétendent être prophètes ou prétendent être des guides et ainsi de suite. Ça s'est produit depuis après, bien sûr, le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça continue à se produire, et cela jusqu'à la venue de Al-Mehdi et des grands signes de Qiyama. Ensuite, il y a les petits signes de Qiyama qui ne se sont pas encore produits, et là, on peut les compter sur les doigts d'une main. Après, il y a différentes approches. Certains vont les classifier un peu, les coller vers les grands signes. C'est une approche de ulama, hein, une approche humaine. Il n'y a pas un hadith qui dit que voilà les petits signes, voilà les grands signes. Il y a l'ensemble des signes et les savants, ils font là la distinction parce que certains hadiths qui parlent que à partir de Mehdi et Dajjal, on comprend par déduction que ce sont là les grands signes. Donc, ces petits signes qui ne se sont pas encore produits, c'est quand le prophète parle de la péninsule arabe qui redeviendra verdoyante avec des fleuves qui vont couler. Et pour ceux qui ont été au Umrah il y a moins d'un an, quand vous passez en bus ou en chameau éventuellement, si ça se fait aussi maintenant, il y a des groupes qui le font, pas les groupes d'ici, mais ça se fait, ou en voiture, vous voyez que beaucoup d'endroits, surtout au mois de janvier, après les grosses pluies d'hiver, parce que c'est en hiver qu'il y a plus de pluie, Après les grosses pluies, c'est impressionnant, on ne voit presque plus le désert. Il y a une mousse, une petite mousse verte ou blanche qu'on retrouve jusqu'en haut des collines. Et j'ai posé la question, parce qu'il y a plein de gens qui disent, est-ce que ça c'est une kiyama? Les gens y aiment ça. Mais ça parce que c'est une kiyama qui vient d'arriver. Ça, c'est aussi croustillant qu'un aime ce genre de sujet. Les gens aiment savoir ça. Pour eux, ils le regardent comme spectateur. Mais attention, ce n'est pas un spectacle. On a posé la question à un grand cher, quelqu'un de là-bas dit, est-ce que... Et on a une réponse en mode de missile. Ata amrullahi fala tasta'jilou. Ata amrullah fala tasta'jilou. Le sens, le tafsir du verset, c'est que quand Allah prend une décision, là, ne te presse pas. Ne cherche pas les signes de qiyama. Parce que lorsque les signes de qiyama vont arriver, comme on a dit, c'est un changement dans la sunnah d'Allah, ce sera clair pour tout le monde. Il est impossible que telle personne, eux, ils ont perçu et d'autres n'ont pas compris par ignorance totale, ils n'ont pas la même interprétation, les choses qui vont changer le déroulement de ce dunya. Donc, le retour de la péninsule arabe, fleuve et prairie, et ensuite... parmi ces petits signes, justement, on avait parlé de la montagne d'or qui va émerger de l'Euphrate. Après, il y a l'approche, on va dire, un peu cartésienne qui dit non, cette montagne d'or, c'est en fait le gisement de pétrole. Aucunement. Le prophète a bien parlé de montagne d'or et que les gens vont s'y précipiter et il y aura des morts pour s'emparer de ce trésor. Et donc, nous comprenons le texte, les textes, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Donc, après. Je pense qu'on en a pour 5 minutes encore. Il va être difficile de dénumérer les petits signes de Qiyama. Il y a des petits signes qui vont impacter sur la pratique. Il y a des petits signes qui vont impacter sur la connaissance religieuse. Parmi les signes de Qiyama, un yurfa al-ilm, la connaissance sera reprise de ce dunya. Mawtul ulama, le décès des savants. Et beaucoup de savants quittent ce monde d'année en année. Parmi les petits signes également, et ça fait grincer les dents, beaucoup de grands lecteurs de Coran. Et peu de savants. Parmi les petits signes, ça c'est juste pour embêter certaines personnes, le fait que des gens vont demander rétribution. On va payer les gens pour lire le Coran. Et ce sera pris comme, voilà, un show. Tout ça, c'est en rapport avec la connaissance religieuse qui va perdre en qualité. Pourquoi est-ce que je dis ça perd en qualité par rapport à ces derniers exemples? C'est que les gens ne prennent plus considération du Coran comme la révélation, mon mode de vie, ma guidée, ma survie. De foi. Non, c'est un spectacle. Le qari vient, voilà, on est full, on écoute, on crie Allahu Akbar. Demain, Fajr n'a plus personne. Le spectacle, Allahu Musta'an. Donc ça, tout ça, ce sont, je n'incrimine personne, mais je veux dire que notre approche, elle doit changer par rapport à cette compréhension de petits signes de qiyama. D'autres petits signes vont impacter la da'wa ilallah. Quand dans le Coran, Allah Ta'ala dit que nous sommes la meilleure des communautés, ta'muruna bil ma'ruf, le Prophète dit que viendra une époque où les gens n'en donneront plus le bien et n'interdiront plus le mal, hadith de At-Tabarani. Donc ce sont des signes concernant le niveau et la pratique de la religion. D'autres signes vont impacter sur le rapport du croyant avec les péchés. Consommation d'alcool, de stupéfiants, l'adultère, les dérives de la sexualité. Et on s'arrêtera là parce que ça devient sérieux après. Tout ça, c'était des choses qui peut-être à une certaine époque n'étaient même pas concevables. Le prophète m'a dit que tout cela va se généraliser jusqu'à devenir la norme et les personnes qui ne sont pas d'accord avec ces déviances seront considérées justement comme ghuraba. Et certaines annonces prophétiques qui n'existaient pas à son époque et qui vont prendre place comme les génocides, les tueries de masse. On a juste à regarder combien de morts dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la bombe Hiroshima, les génocides au Rwanda, c'est-à-dire des choses qu'à l'époque, quand il y avait Badr, il y avait Uhud, même la guerre contre Ar-Rum, les Romains, Byzance, l'Empire de Byzance, contre Faris, contre les Perses, on parlait de milliers de personnes, mais là on parle de millions de personnes, des tueries massives annoncées par le prophète et qui font partie des signes de Qiyama. Quand Ibn Kathir écrit son livre, pour lui c'est un petit signe qui ne s'est pas encore produit. Quand nous lisons ce petit signe, on se dit qu'on y est en plein Wallah Musta'an. Le fait qu'il y aura de moins en moins de bénédictions dans le temps, le prophète ne l'a pas vécu, mais nous le vivons très clairement. Il y a des signes qui sont un peu interpellants. Taqarubul Aswaq, les marchés vont se rapprocher. Alors comment comprendre ça à l'époque où, pour acheter quelque chose, il faut attendre que la caravane vienne de Syrie et t'apporte des marchandises à Madina, et que le prophète dit que les marchés vont se rapprocher. Nous voyons aujourd'hui, d'un clic, vous achetez ce que vous voulez sur Internet, de plus gros, plus petit, et ça vous est livré à votre... Bref, le fait que le commerce va se faciliter. Parce que là, il y aurait trop de choses à dire. Il y a des petits signes qui ne sont pas en rapport avec les péchés aussi, hein. C'est une évolution de certaines choses. Le prophète m'a dit que, mais sachez aux musulmans que quand vous le verrez, ça veut dire que le qiyama est de plus en plus proche. Comme irtifa'ul bunyan, hein, le fait que les gens vont faire des constructions de plus en plus haut. Ça ne veut pas dire que si je fais un immeuble de 30 étages, je suis dans le péché. Non. Ça ne veut pas dire que je suis en train de contribuer à la fin du monde, aucunement. Ça veut dire que ce sont des choses que, ô mu'min, soit attentif, et cela va se produire. Parmi les annonces du prophète sallam qui n'existaient pas à son époque, mawtul faj'a, mort subite, des arrêts, on peut interpréter ça, les médecins sont là pour dire, des arrêts cardiaques, des gens meurent subitement sans qu'il n'y ait de signe, chose qui n'existait pas à cette époque, et kathratu zalazil, un nombre impressionnant de séismes et de tremblements de terre à la fin des temps. Ce sont là, on va dire en résumé, quelques signes annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on veut juste parler de certaines choses d'autres points qui ont été annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait également annoncé la bataille de Siffin, qui fut une scission au sein de la Oumma entre ceux qui ont suivi Hazrat Ali et ceux qui ont suivi Muawiyah. Tout ça, et ça fait partie du Mu'ajiza, du miracle prophétique, quand le prophète sallam annonce des choses qui vont se produire longtemps, des années après sa mort, et ça va se produire exactement comme il l'a annoncé. La venue des khawarij, qu'on appelle parfois kharijit, les khawarij, et justement tout ce qu'on voit comme exactions à travers le monde, actes de terrorisme et ainsi de suite, ça découle, on a déjà eu l'occasion de parler de ça, ça découle exactement, c'est le portrait type du khawarij, la personne qui tue au nom de Dieu et qui tue sans regarder qui il tue, et qui considère que si tu habites avec des gens qui ont une appartenance à ceux qui ont tué des croyants, tu fais partie de ces gens et tu mérites d'être tué, c'est-à-dire des raisonnements de grands malades. Et le prophète avait annoncé la venue des kharijites qui ont eu lieu à l'époque d'Hazrat Ali, et Abdullah ibn Abbas était parti parlementer avec eux, des gens d'une piété avec des signes de prosternation, des tashnamas XXL, une pratique, une assiduité. Le prophète me dit, ô sahaba, vos actions ne valent rien par rapport à leur degré de tahajjud et de lecture de Qur'an, ajib. Mais leurs croyances sont totalement erronées, ils font couler le sang qui est sacré au nom d'Allah, alors qu'Allah l'a rendu haram. Et cette fitna qui est apparue à une époque, elle ne s'est jamais éteinte, hein, et elle continue à revenir encore plus fort, de façon plus présente à la fin des temps. Parmi les signes annoncés par le prophète, la propagation de la sécurité, c'est-à-dire qu'on peut faire des voyages d'un pays à l'autre sans problème, sans crainte pour notre vie. Le feu du Hijaz, et ça a été relaté par les grands savants, un feu qui est apparu dans le Hijaz, dont les traces sont toujours présentes dans le Hijaz, dans la région de Makkah et Madina, avec cette fameuse terre volcanique que nous avons à Madina Munawwara. Le prophète avait annoncé également le combat contre les Turcs. Et c'est là qu'on a besoin de rectifier notre approche lourawi, notre approche linguistique. Quand le prophète parle des Turcs, attention, il ne faut pas que je prenne mon premier livre en français, je dis que, les Turcs, aucunement. Quand on parle de Turcs, ce sont les Tatars. Ce sont les Tatars qui ont foncé sur le monde musulman, qui ont causé énormément de pertes au XIIIe siècle, et principalement en Irak. Et c'est un événement qui est connu de l'histoire. Le prophète avait parlé des folies meurtrières, et ça on vit malheureusement. Des dirigeants qui perdent leur sens de l'honnêteté, de l'honneur, de responsabilité. L'apparition de femmes vêtues mais nues en réalité. Et là, on aurait des chapitres à ce propos. Des bergers vains nu-pieds qui deviennent riches du jour au lendemain. Quand vous atterrissez, je ne porte pas de jugement sur aucune culture, mais quand vous atterrissez à Dubaï, ça dépend de quel terminal, dans un terminal particulièrement, quand vous êtes sur le tapis roulant, vous voyez, il y a des fresques sur au moins 30-40 mètres où on a, c'est très bien fait, le dessin de Dubaï il y a 100 ans, désert, au fur et à mesure, comment est-ce que la ville s'est construite jusqu'à, waouh, des tours extraordinaires, et ces personnes, c'était des bergers. des gens qui vivaient dans le désert avec leurs moutons. Du jour au lendemain, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus maintenant. Et tout ça était une chose qui était impensable à l'époque d'Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, et qui se sont vérifiés. Les savants disent que tout ça, le fait de voir ces petits signes se concrétiser les uns après les autres, ça augmente notre iman, prise de conscience que tout ce que Nabi Karim s'en nous a annoncé, on le voit très concrètement. Et nous sommes la seule communauté, je sais, il est temps, même si on a faim, de toute façon, il n'y a pas de choix, on ne va pas manger. Nous sommes la seule communauté à avoir eu autant de ilm concernant les signes de Qiyama, et c'est là un ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jal. Le Prophète a parlé également du monopole sur les marchés qu'on appelle en arabe al-ihtikal. Al-ihtikal est quelque chose d'interdit, mais ça, c'est les savants des mu'amala qui pourront vous développer ça. Le Prophète a parlé du faux témoignage, de l'ignorance, le jahl, et le pire, c'est ce qu'on appelle le jahl murakkab. Les gens y croient. Il connaît tout. C'est monsieur qui connaît tout. On a l'impression de connaître la religion sur le bout des doigts, mais on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. On a eu un échange avec des jeunes hier, et ce qu'on nous rapporte comme masla erroné ou comme approche traditionnelle est comparé à l'approche claire des hadiths. On se rend compte que parfois on pense connaître, mais il nous manque énormément de bases. Parmi les petits signes de Qiyama, la cupidité, l'avarice, on ne veut plus donner. Le mauvais voisinage, ça c'est un petit signe de Qiyama quand ça va se généraliser. Le repli sur soi. Dites-moi si on ne vit pas cette époque. Nous avons tous au minimum 2000 amis sur Facebook. La moyenne, non, 2000. Si tu as moins de 2000, c'est que tu as raté ta vie sociale, sur les réseaux sociaux, c'est pas ta vie sociale. On a 2000 personnes, 3000 amis. Parfois, on atteint le haut degré de Facebook, c'est le compte saturé. Quand tu as le compte saturé, aïe, 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 ça, c'est un gars qui gère. C'est-à-dire qu'il a 5000 amis sur Facebook. Lui, il maîtrise les réseaux sociaux. Tu as 5000 amis sur Facebook, ton voisin de palier, tu ne connais pas comment il s'appelle. Ton voisin au deuxième étage, il est décédé, il est de confession chrétienne ou il est tamoul, malba, peu importe. Sa famille est venue, ils ont pris son corps, ils l'ont amené, tu ne savais même pas. C'est ça, relations humaines. Le prophète m'a parlé de ce repli sur soi, l'individualisme. À la fin des temps, tout cela a été annoncé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les petits signes, le fait que les gens ne vont même plus se soucier de leur source de revenus. J'ai besoin d'acheter ce salon, on revient du salon de la maison. Ce salon coûte 3000 euros. Il me dit, pas casse la tête, 9 paiements sans frais. Ben, 9 paiements sans frais, j'y vais. Et le plus important, c'est qu'arrivé ce soir, je regarde la finale de la Ligue des Champions, j'ai mon relax et c'est à l'aise, c'est ce que je souhaitais. Et tu n'imagines pas que derrière cette transaction sans frais, tu participes involontairement à un système d'intérêt où la banque va régler le commerçant paie les intérêts à la banque. En finalité, tu prends part à un système ribawi qui est haram. Donc, on ne se soucie même plus, on va vers la facilité, on prend ce qui nous est accessible. Apprendre le ilm, la connaissance religieuse pour autre qu'Allah. On va avoir des savants qui ont la science, mais ils veulent autre chose que le contentement divin. Le mari qui obéit à sa femme, il faut que je complète la phrase, sinon c'est pas bon, et qui désobéit à sa maman, ça c'est la phrase complète. Un mari qui donne plus d'importance à son épouse qu'à sa maman, on ne développe pas, c'est trop long, ça c'est un petit signe de Qiyama, mais c'est un péché qui est grave, se rapprocher de ses amis et s'éloigner de ses parents. Situation actuelle, Wallah Musta'an, on préfère mille fois aller boire 1000 chèques chez tel galassi après ta vie que de s'asseoir avec son papa qui a 75 ans, 76 ans, parce que il répète les mêmes histoires tous les soirs. Et donc je préfère avec mes amis et on rigole. Non, c'est un petit signe de Qiyama. Ne voyez pas ça comme une évolution normale des sociétés, mais comme vraiment un des petits signes de Qiyama, et on doit faire attention et ne pas sombrer dedans. L'adultère, l'alcool, l'instrument de musique, ça aussi c'est devenu délicat maintenant, ça aussi on peut plus en parler. Wallah musta'an. Arriver à un tel degré de fitna que les gens vont même souhaiter mourir, tellement il y a des fitnas. L'ornement des mosquées, alhamdoulilah, nous nos mosquées à La Réunion sont soft, mais arriver à une époque où les gens décorent excessivement. Les tempêtes, phénomène naturel, on a légèrement parlé. L'abondance, présence de Coran partout dans le monde, mais absence de pratique. Vous avez votre Coran 13 lignes sur tous les portables, mais la pratique et la lecture même en dehors du mois béni est devenue de plus en plus rare. Le fait de prendre la connaissance religieuse chez des gens qui n'ont pas de science, Skype, et on va voir n'importe qui pour poser des questions, et des personnes vous donnent des connaissances erronées qui font qu'on arrive à des comportements sectaires et des gens font n'importe quoi parce qu'ils écoutent des gens qui n'ont pas de connaissances. Peu de baraka dans le temps. Les simples d'esprit vont s'exprimer à tort et à travers. Alors là, franchement, avec Twitter, on est servi. Monsieur tout le monde, monsieur de la rue qui ne connaît rien, il va tweeter quelque chose qui soit retweeté par 3000, 4000 personnes et tout le monde a une visibilité sur une pensée qui vient d'une personne qui n'a aucune connaissance, ni aucune notion, ni aucune expérience de la vie. C'est-à-dire ce sont des annonces très subtiles du Prophète et on le voit clairement à notre époque. Les gens vont s'ignorer, tremblement de terre, plus d'hommes que de femmes et ainsi de suite. Et on va s'arrêter là concernant les petits signes de Qiyama, arriver à une situation où la pratique de la foi deviendra tellement difficile, un tel degré de zulm et d'oppression dans l'ensemble de la Oumma qu'Allah Rabbul Izzah, par sa clémence, va envoyer un homme descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Al-Hassan radiallahu anhu précisément, et ce sera Al-Mahdi qui, à son arrivée, sera chassé, dont la prêche sera interdite, sa vie sera en danger, mais il quittera Madina pour aller à Mecca et les gens feront bay'a avec cet homme sur le mataf et les gens vont le reconnaître comme Al-Mahdi. Ça veut dire c'est un homme qui lui-même, à sa naissance, ne sait pas qu'il est Mahdi, mais il va le comprendre au fur et à mesure et par la venue de cet homme, Allah va apporter un changement pour l'ensemble de la Ummah et un retour de Izza, une certaine stabilité jusqu'à la venue de Dajjal. Et on laissera la suite de l'intervention pour la semaine prochaine, pour le prochain intervenant. Qu'Allah nous pardonne pour le temps qu'on a pris et qu'Allah nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles et que la réalité de ces petits signes pénètre nos cœurs, que ça ne reste pas juste du blabla, des belles paroles qu'on a écoutées parce que il n'y avait pas de plan de biryani dimanche dans Ramadan, donc on a écouté quelqu'un qui parle. Non, c'est du ilm, c'est de la connaissance, c'est notre futur, c'est notre avenir, c'est notre devenir. On a besoin de connaître ces petits signes pour s'en protéger et protéger notre famille afin de rester dans le droit chemin. Wa tawfiqi illa billah. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.